At the Bank of Santander, they've created Stan, a smart bot that can predict the future of remortgaging.
I read Stan. Will my mortgage rate go up?
1955 was the last time Newcastle won the cup.
No, I try not to mumble.
Playing, let's get ready to rumble.
Oh.
Meanwhile, at Santander, they can't predict your future, but they'll help secure it with great mortgage rates fixed for up to 10 years. See what's possible at Santander.
Early repayment charges apply. Lending subject to status and criteria. Your home may be repossessed if you do not keep up repayments on your mortgage.
Vous écoutez
RMC.
RMC.
On a plusieurs places à notre âge, comme on dit.
C'est dommage, c'est une belle occasion de rater, mais on va essayer de s'en procurer d'autres cet après-midi.
On a des hommes de caractère, donc on va tout faire pour relever le tir.
Jusqu'à minuit,
c'est l'afterfoot Nicolas Jamal.
Et oui, avec Kevin Diaz, avec Jonathan McCarty, vous écoutez RMC, vous regardez RMC Sport News, on est ensemble jusqu'à minuit. Arrive dans quelques instants les drôles de dames, bien sûr, pour évoquer notamment la prestation étincelante du Borussia et de son attaquant Haaland. On parlera également avec Julien Laurence de Olivier Giroud à Chelsea, de partout sur le terrain de Leicester. Giroud, pas dans le groupe. Alors que hier en compte, t'as Lampard qui dit c'est un joueur incroyable, professionnel, comportement exemplaire.
J'ai commenté le match, incompréhensible.
On parlera ça dans le détail. Avec des choix, il met des numéro 9 qui sont pas numéro 9, ça veut dire que, enfin, voilà. Très inquiétant, plus qu'inquiétant, pour Olivier Giroud avant l'Euro, bien sûr. Et également du Real Madrid, qui s'en est remis à un duo français. Fernand Mendy, Karim Benzema pour battre l'Atlético de Madrid. Fred Hermel sera avec nous. Mais d'abord, messieurs, revenons sur la victoire du PSG en fin d'après-midi, face à Montpellier. 5-0. On rappelle le contexte, hein, victoire. Arrange, enfin en tout cas pas tronqué, mais accentué par l'exclusion dès la 17e minute de jeu dans ce match
de Berthaud,
le gardien remplaçant de Geronimo Rulli, puis de Chotard à la 88e minute de jeu. Sarabia, Di Maria, Congré contre son camp, Mbappé et Kurzawa sont les buteurs. Avant qu'on parle du camp Mbappé, messieurs, parlons de ce match. Qu'est-ce que vous avez trouvé d'intéressant, de convaincant, bah, Kevin et Jonathan, après
J'espère maintenant qu'après, bien sûr, l'épisode qui a été assez commenté de cet été, on se rend compte, même s'il a des défauts, comme nous tous, du joueur qu'on a en Ligue 1.
Ah, il est incroyable.
Neymar Junior, c'est un joueur qui est clairement top 3 mondial, sans aucune discussion. Après Messi et Ronaldo, et encore s'il arrive à enchaîner les performances, s'il arrive à se mettre, on va dire, le cerveau un peu à froid et éviter certaines provocations qui peuvent amener à une blessure, éviter quelques sorties, quelques soirées et se concentrer un peu plus sur le foot, même si on sait qu'il est comme ça. Mais techniquement, Nico, Jonathan, mais ce qu'il arrive à faire, mais c'est incroyable.
C'est juste le passement de jambes, ça va pas trop, mais
ouais, bon, le style ça va pas en ce moment, mais tu vois le passement de jambes toujours au bon moment, la passe dans le bon tempo, l'accélération. C'est pas le joueur le plus costaud, mais il est solide sur ses appuis. C'est un joueur pied droit et pied gauche. Le mec, c'est absolument tout faire footballistiquement.
En fait, un génie. Ce qui est très fort avec Neymar. Même si, voilà, il y a deux degrés de lecture, mais la première, c'est que ce qui est très fort, c'est que il est tellement bon en Ligue 1 qu'on a oublié le scandale de cet été. Le scandale de son comportement, le scandale de sa prise d'otage du Paris Saint-Germain de cet été. Il a réussi à faire oublier, de par ses performances en Ligue 1 qui sont extraordinaires et stratosphériques. Après, encore une fois, voilà, on va se répéter d'année en année. On verra en Ligue des Champions. Parce que pour moi, pour l'instant, tout ceci n'est que de la littérature.
Il a déjà gagné la Ligue des Champions quand même.
Non, en Ligue des Champions,
oui, il est venu à Paris pour permettre au PSG de franchir un cap.
Oui, mais je vous rappelle que le football, ça se joue à 11 contre 11.
Oui, donc, mais là, t'as une équipe qui me semble assez forte.
J'espère qu'il sera là.
Voilà, ça va commencer par là. On verra s'il est là sur les deux matchs en huitième, on verra s'il est là en quart. Pour l'instant, je lui dis bravo parce qu'il a réussi à faire oublier l'épisode de cet été, mais pour l'instant, c'est du détail parce qu'on verra au printemps là où les choses comptent. Ceci étant dit, sur le match du PSG, énormément de choses positives à dire, forcément. Alors c'est vrai que le match est un petit peu faussé parce que tu as cette exception du gardien dès le début du match, mais je les ai trouvés très bons offensivement. Mention à Sarabia qui est dans une position
un petit peu hybride.
Je l'ai trouvé très intéressant. Voilà, vraiment un joueur de collectif. On sait qu'en coupe, Tourelle peut compter sur lui.
De collectif, mais efficace. Hein. 8 buts sur ses 10 derniers matchs avec le PSG quand même. C'est un buteur.
Il est toujours là quand on fait appel à lui. J'ai trouvé aussi que ce qui était réjouissant, c'était l'ambiance qu'il semblait avoir au sein du groupe. J'ai bien aimé. J'ai vu à la fin du match Cavani associé aux autres pour fêter la victoire auprès du cup. Mais encore une fois, deux choses. La première, c'est que pour l'instant, ceci n'est que de la littérature parce que ce qui compte pour le PSG, c'est le printemps. Et la deuxième chose, c'est que même à 10 contre 11, j'ai trouvé que 2-3 fois, Montpellier arrivait un petit peu trop à transpercer le milieu à deux, ce fameux milieu à deux, Gay et Verratti. Et j'ai quelques doutes, toujours, qui ne sont toujours pas levés, sur la viabilité de cette organisation et de ce milieu-là en Ligue des Champions face à une opposition qui sera plus élevée.
Ouais, voilà. Mais tu sais, tu parles à juste titre du milieu de terrain, mais je vais me répéter ce que j'ai dit déjà pour Monaco. Défendre, c'est quelque chose qui est collectif. C'est pas que les défenseurs, c'est pas que les deux milieux récupérateurs. C'est également les joueurs de côté qui doivent resserrer dans l'axe pour éviter les lignes de passe, pour protéger, pour être les premiers. On dit toujours que les attaquants sont les premiers défenseurs, mais c'est pas un cliché, c'est la vérité dans le football de haut niveau encore plus. Et par contre, voilà, il y a maintenant le petit bémol, c'est sur la tactique.
Moi, alors parlons de ça, je voulais qu'on parle de ça. Ouais. Tu parlais des attaquants sur le banc, notamment.
Voilà.
J'ai du mal avec ça. Comment vous le lisez, ça, les gars? Icardi, Cavani sur le banc. Tes deux numéros 9, tes deux seuls vrais numéros 9 sur le banc.
J'ai un peu de mal avec ça.
Moi, Icardi pas en forme, il peut pas choisir.
J'ai un peu de mal avec ça parce que aujourd'hui, on dit que, bien sûr, le juge de paix sera la Ligue des Champions. Et je pense qu'en Ligue des Champions, en tout cas, moi, voilà, à mon simple niveau, je pense qu'il faudrait minimum faire jouer un des deux. Oui. Et je vois pas Sarabia être vraiment aligné titulaire.
Non, donc, pas dans ce poste-là.
Je pense que Cavani, il a besoin de temps de jeu. Je pense qu'Icardi, il a besoin, peut-être pas forcément de temps de jeu, mais de retrouver une confiance qui est pas forcément perdue.
Non, je
mais
pense bon, qu'il a besoin de faire du frais.
Voilà.
Il a besoin de faire du frais.
Et donc, j'aimerais bien quand même revoir ce Paris Saint-Germain assez rapidement avec un des deux attaquants, accompagné bien sûr de Neymar et Di Maria. Di Maria, dont on parle pas beaucoup. Mais quand même,
un grand match.
J'ai noté Di Maria, cette saison, c'est 30 matchs, 11 buts, 14 passes décisives.
Il est énorme, il est énorme.
C'est énorme.
Moi, ce qui me gêne encore par rapport à ce que tu dis, Kevin, c'est que, encore une fois, ça souligne la très mauvaise gestion du cas d'Edinson Cavani par Thomas Tuchel. Là, le signal que tu l'envoies, il est dramatique. Tu l'as gardé cet hiver alors que, voilà, il était d'accord avec l'Atlético de Madrid. Tu le gardes. Tu te le dis, voilà, on n'accepte pas l'offre de l'Atlético, on va avoir besoin de lui. Là, tu mets de côté ton numéro 1, fais jouer ton numéro 2.
C'est pas un choix de Leonardo.
Pourquoi? Mais pourquoi? J'ai l'impression que
Tuchel ne comptait pas forcément sur lui, mais que Leonardo a décidé en tant que chef sportif de le garder.
Mais dans les deux cas, Kevin,
c'est une impression.
Dans les deux cas, c'est stupide parce que tu sais que maintenant l'histoire avec Cavani va se finir quoi qu'il arrive à la fin de ces 6 mois-là. Tu sais que tu vas forcément en avoir besoin à un moment ou à un autre dans ta saison. On ne sait pas ce qui peut se passer. J'aime pas radoter, mais on va rappeler que l'année dernière contre Manchester, tu n'avais pas ni Neymar ni Cavani. Ouais. Donc tu avais une attaque qui était dénuée. On ne sait pas ce qui peut se passer avec les suspensions, avec les blessures, avec les anniversaires et tout le reste.
Demain soir l'anniversaire, hein, voilà. La soirée blanche de Neymar.
Donc, et l'anniversaire de la sœur, on ne sait pas.
Oh, yo.
Donc tu en as besoin des Edinson Cavani.
T'es invité les gars ou pas t'es invité?
Non, je ne compte pas y aller.
Kevin, non, t'es pas invité la soirée Neymar.
Et tu sais quand
vous auriez aimé ou pas?
Non.
Non, le dimanche c'est soirée en famille.
Mais soirée en famille ou pas, non. Et d'ailleurs, tu sais, à partir du moment où j'ai vu Luis Gustavo s'y rendre, c'était fini entre lui et moi, quoi.
Et quoi?
À partir du moment où j'ai vu Luis Gustavo aller à l'anniversaire de Neymar, pour moi, c'était terminé.
Ouais, c'est vrai.
Voilà. Tiens, on va accueillir l'autre fille, supporter parisien au 32-16. Ah, salut, l'autre fille.
Salut,
ouais, l'autre fille.
Un
habitué de l'after.
Salut, l'autre fille.
Bienvenue dans l'after, comme d'hab. Bon, ouais. Avec toi, on voulait ouvrir le chapitre Kylian Mbappé.
Ah.
69e minute de jeu, je rappelle les faits. Le PSG mène 5-0 déjà. Hein, il est remplacé par Mauro Icardi et Mbappé traîne les pieds très clairement. Il sait qu'il est filmé, qu'il y a 24 caméras, qu'il est en Mondovision.
Que ses gestes vont être décortiqués aussi.
Vont être décortiqués, comme il l'avait déjà fait il y a plusieurs semaines à Montpellier déjà, je crois.
C'est Montpellier, ouais.
Mbappé traîne les pieds, Tourelle le prend par le bras, lui explique pourquoi. Mbappé est en colère. Les deux mettent leurs mains devant la bouche, j'en peux plus aussi. Ouais. Moi, pas qu'on lise sur leurs lèvres. Et Mbappé, à bout de 20 secondes d'échange avec Tourelle, va s'asseoir en tribune et arrache son élasto et le jette de rage par terre. L'autre fille, je sais qu'il y a beaucoup d'avis différents là-dessus. Certains disent que Tourelle n'aurait pas dû lui parler comme ça dans les caméras, que Mbappé, il faut comprendre, il a envie de marquer, que voilà. Qu'est-ce que t'en penses, toi?
Alors, déjà, il y a plusieurs choses à aborder sur ce fait-là. On a 15 jours de la Ligue des Champions, je pense que ça n'a rien à faire ici.
C'est vrai.
Sincèrement. Tous les feux sont ouverts au Paris Saint-Germain et je comprends pas du tout l'attitude de Mbappé et je comprends pas aussi l'attitude de Thomas Tuchel qui va lui parler. Moi, je serais à la place de Tuchel, je l'aurais laissé sur le banc et j'aurais parlé hors caméra. Il sait très bien que c'est un joueur qui va être exposé, que ça va parler dans les journaux, qu'on va essayer de déstabiliser le Paris Saint-Germain dans les 15 jours à venir. Et on va nous trouver encore l'excuse que c'est, voilà, qu'il s'est passé ci, ça, ça. Non, on n'a pas besoin de tout ça. Les feux sont ouverts au Paris Saint-Germain. Et là, on en veut, voilà. On a dit comme quoi cette année, il y avait un groupe, que ça vivait bien. J'ai envie que ça continue comme ça. Neymar, il a fait former un coup de pas. Il est exemplaire depuis quelques temps. Faut que, voilà, faut qu'il prenne le chemin. Et voilà. Et moi, ce que je veux, c'est que Cavani le prenne en main et qu'il lui parle vraiment. Qui lui disent les choses, sincèrement.
Ouais, bien sûr.
C'est vraiment l'exemple du Paris Saint-Germain.
Vas-y, Kevin. Lotfi, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu regardes les matchs de Manchester City?
Oui.
Voilà. Est-ce que tu remarques le comportement de Guardiola? Tu sais que Guardiola, c'est un des entraîneurs qui fait le plus tourner dans son effectif. Et il en a des stars.
Bien sûr.
Tu vois? Et est-ce que tu vois la réaction qu'il a lorsqu'il a l'impression qu'un joueur sort et qu'il n'est pas content? Et Guardiola, il se met là au plus haut de sa zone technique. Je peux te dire, il y a même pas un regard, il y a même pas un joueur qui a envie de faire le mec énervé. Tu vois ce que les Marais, champion d'Afrique.
Les Aguero,
les De Bruyne, les Gabriel Jesus, international, en veux-tu en voilà. Les mecs, ils filent tout droit, ils vont s'asseoir et ils savent que s'ils bronchent le lendemain, ils ont convocation et ça se trouve pendant deux matchs, ils sont remplaçants. Donc c'est aussi, même si le protagoniste et le fautif, c'est Kylian Mbappé, qui pour le coup veut pas qu'on lui parle d'âge, mais là nous montre qu'il a quand même l'âge qu'il a, parce que là il nous fait un peu l'enfant gâté, malheureusement, parce qu'on l'aime tous. Mais Thomas Tuchel, bah attends, il doit être beaucoup plus ferme. Il doit être beaucoup. Écoute, et je finis. Juste le fait, Lotfi, je finis. Thomas Tuchel, écoute. Thomas Tuchel doit être beaucoup plus ferme. Il doit l'envoyer dans sa chambre. Pour l'instant, tu vas t'asseoir, mon gars. On en discute demain au bureau. Parce que moi, j'ai un match à poursuivre.
Ah bah justement, écoute, Lotfi, t'as la parole dans un instant. Jonathan également son avis sur le sujet. Écoutez Thomas Tuchel après la rencontre sur cette petite passe d'armes au bord du terrain.
Je suis l'entraîneur. Quelqu'un doit avoir des idées qui sort et qui rentre. Et c'est moi. Il est très intelligent. Il sait qu'est-ce qu'il fait. C'est pas bien parce que ça ouvre une discussion, ça ouvre des sujets c'est une distraction de notre spirit. Cet sujet-là, ça donne toujours un peu l'impression que c'est pas comme ça. Et c'est dommage. Pour moi, je suis pas en colère. Pour moi, je suis triste.
Et ouais, c'est fort ce qu'il dit quand même. Il n'est pas en colère, il est triste, clairement, du comportement d'Mbappé. Alors, qui, comme le disait l'autre fille à l'instant, tous les voyants sont au vert et t'ajoutes. Parce que nous, on en parle aussi, les médias en parlent.
Les gars.
Quoi? Non, mais sincèrement, je sais pas quoi dire, quoi.
Vas-y, Jonathan.
Moi, ce qui me désole, en fait, le comportement de Kylian Mbappé, qu'il soit pas content de sortir, à la rigueur, ça me dérange pas. Ça me dérange pas parce que je pense à Cristiano Ronaldo, par exemple, l'attitude qu'il a de toujours vouloir marquer le plus de buts, de toujours vouloir rester sur le terrain. À la rigueur, qu'il soit frustré et qu'il l'affiche en esprit de compétiteur jusqu'au bout, même dans des matchs où tu mènes 5-0. J'ai même limite envie de lui tirer mon chapeau et j'espère qu'il gardera cette envie de compétition et cette envie de performance jusqu'au bout. Mais ce qui me dérange, en fait, c'est la discussion qu'il y a après. Et cette discussion, il faut bien avouer, qui l'engage, la discussion? C'est Thomas Tuchel. Et Thomas Tuchel, encore une fois, montre qu'il n'est pas en mesure, qu'il n'a pas les capacités de gérer un club avec autant d'ego, avec un vestiaire qui a autant de stars. C'est lui qui engage ces discussions. C'est lui qui après va se plaindre en conférence de presse en disant oui, mais cette discussion a troublé notre spirit. Non, il n'avait pas qu'à pas lui parler, c'est tout. On sait qu'Mbappé va faire la tête quoi qu'il arrive au moment où il le sort. Quand il le sort, il le sait. Moi, je pense, et je vous le dis, c'est mon avis, ça engage que moi, mais pour moi, c'est une qualité. Mais c'est lui qui crée cette distraction. C'est lui qui en fait des caisses. C'est lui qui va, qui le retient, qui lui dit mais non, Kylian attend, etc. C'est lui qui fait d'une souris qui en fait une montagne. Et là où je suis encore plus atterré, c'est à la fin, ce qu'il nous dit en conférence de presse, c'est quand il nous dit « il est triste ». Oh mon gars, t'es entraîneur du Paris Saint-Germain, t'as pas à être triste. Tu dois me les poser sur la table, passez-moi l'expression, et tu dois un petit peu resserrer le boulon, montrer que tu es un vrai général, tu vas partir à la guerre en Ligue des Champions, tu gères tes trucs en interne, mais tu vas pas afficher tes états d'âme sur le bord du terrain à pleurnicher avec Mbappé pendant 20 secondes.
C'est un des enseignements de cet épisode-là, c'est que Thomas Tuchel n'est pas un patron, encore une fois.
Mais on le savait,
oui, il le sera peut-être un jour ailleurs ou au PSG, mais t'as raison, un coach autoritaire, s'impose. Non.
Ça vous choque pas le verbatim? Je suis triste.
Je t'ignore. Tu sors, t'es pas content? Va t'asseoir, je t'ignore.
Je pense quand même, Jonathan, que même si le verbatim triste n'est pas forcément approprié, il y a aussi le fait qu'il n'ait pas un vocabulaire en français qui lui permette d'exprimer forcément sa pensée réelle.
Quand même. Mais c'est, quand il dit le mot triste, moi, c'est en cohérence avec les actions, comportements.
Moi, je pense qu'aujourd'hui, alors attention, toute raison. Attends, l'autre fille, juste, et après, je te laisse la parole, mais moi, je pense qu'aujourd'hui, alors peut-être pas toi, mais il y a certains supporters du PSG, quand ils voient ce genre d'image, ils sont un peu tristes.
L'autre fille.
Au moins inquiet.
Toi, tu parles d'individualisme, d'égoïsme.
Inquiet, oui, parce que à chaque fois, on nous sort des trucs avant la Ligue des Champions. On essaie de nous déstabiliser. Et franchement, c'est vraiment pas le moment avec ce qu'on a vécu, les deux remontadas. Contre moi, Manchester, je vais l'appeler aussi la remontada. C'est pareil.
C'était pire. C'était pire.
Avec les déconvenues qu'on a eues ces dernières années, à un moment donné, on dit stop. Cette année, les feux sont au vert. On essaie de. Voilà, au niveau des blessures, franchement, ils gèrent bien la situation. Au niveau comportemental, sincèrement, il y a eu le cas Neymar, il s'est remis en question et il est exemplaire ces derniers temps. On n'a rien à lui reprocher. Voilà. Voilà, Mbappé, sincèrement, j'ai vraiment compris.
Il est comme ça, le petit. Le petit, tu le sais qu'il est comme ça.
Attends, il y a les blessures, il y a la prévention.
De la fin, il y a 5-0. Cavani, il est sur le banc. Icardi, il est sur le banc. À un moment donné, faites tourner l'effectif. Et puis même pour lui, ils sont à 20 minutes de la fin, 5-0, pour éviter les blessures. Il y a des échéances à venir.
L'autre fille, je suis d'accord.
À un moment donné, il faut se concentrer sur les échéances à venir.
L'autre fille, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Je l'entends, il n'y a pas de problème. Mais je tiens quand même à dire qu'un gamin qui a une vingtaine d'années, qui affiche cet état de compétition, parce que pour moi, c'est facile de le prendre pour de l'égoïsme, pour dire il fait son caprice, il veut rester sur le terrain. Tout le monde sait que je suis pas le plus grand fan du comportement, de l'attitude et de la personnalité de Kylian Mbappé. Mais en tout cas, j'apprécie ce côté ultra compétiteur qu'il a et qui, à mon sens, lui permet d'être performant et de progresser.
Non mais t'as raison. Après,
quand t'es Cristiano Ronaldo,
non mais
j'ai rien.
Non mais si tu peux me permettre, l'autre fille, si tu peux me permettre, effectivement, et Mbappé l'assume. Je veux marquer l'histoire du foot. Je veux des statistiques les plus folles du foot. Je veux empiler des titres.
Oui,
je veux
tenir un buteur.
Donc si tu veux, non mais la fille, laisse-moi finir. On est clairement dans une démarche aussi individuelle.
Bien sûr.
Il y a quelqu'un au-dessus de lui.
Une démarche individuelle. Je marque l'histoire à travers mes stats.
Pour compléter ce que tu dis, Nicolas.
Oui,
attention.
Là, ça, on peut le taxer d'un certain excès d'individualisme.
Non, tu sais pourquoi? Tout va se décider en fait sur sa capacité à être décisif pour le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions cette année. Parce que là, attends, juste par rapport eu égard à ce qui s'est passé l'année dernière au match retour de Manchester United, où il était le fer de lance de l'attaque parisienne en l'absence de Neymar et Cavani. Là, pour l'instant, c'est vrai que ces comportements-là ne sont pas justifiables. Mais là, il est performant. Et pour moi, je tolérerais et j'encenserais même cette motivation tant que je n'aurais pas vu les matchs de Ligue des Champions du printemps de cette saison.
L'autre fille, merci.
Merci, l'autre fille.
Tu reviens
quand tu veux. Tiens, on accueille Guillaume également. Ciao, Guillaume, supporter parisien au 32-16. Salut, Guillaume.
Bonsoir.
Salut, Guillaume. Salut, bonsoir, Guillaume. Bienvenue dans l'after, Guillaume. T'en penses quoi, toi?
Ça me fait chier et tout. Mais ce que j'ai appris en écoutant les différents médias, c'est que c'est un problème sur le match de Dortmund. Il y a deux joueurs qui ont fait le même coup à Lucien Favre. Cet après-midi, il faudrait demander à Polo tout à l'heure, parce qu'il y a deux joueurs qui ont fait le même coup à Lucien Favre. À ce qui paraît, Favre ne les aurait même pas calculés.
D'accord.
Et à ce qui paraît, il y a aussi peut-être un ou deux ans, Guardiola, il y a la même chose qui lui est arrivée avec Agüero.
Alors oui, t'as raison, il y a beaucoup de réactions également, avec Agüero qui ne voulait pas sortir ou qui n'était pas content de sortir. Il y a une passe d'armes au bord du terrain également.
Oui,
bon, ça arrive.
Et il y a eu cette année, il y a eu Sarri avec CR7. Je ne sais pas si vous vous rappelez, à un moment. CR7, il a filé carrément directement au vestiaire.
On n'a pas dit que ça n'arrivait pas.
Oui, mais c'est parce que...
On dit que ça ne doit pas arriver.
Et quand c'est Cristiano qui le fait, mais oui, même si Cristiano a fait gagner plein de Ligue des Champions Real, etc., on en dit moins.
Mais messieurs, juste une minute. On dit que Kylian Mbappé est un phénomène. On dit que Kylian Mbappé est quelqu'un qui est précoce et qui est doté d'une intelligence rare pour un jeune joueur de sur et en dehors du terrain. Mais si... T'es un si gros phénomène. Mais ne fais pas les mêmes erreurs que font la plupart des jeunes joueurs, peu importe le niveau dans le football ou dans le sport en général. Sois meilleur que ça. Et quand tu sors et que tu mènes 5-0, que tu sais que ton club a perdu Neymar les deux dernières saisons, que vous vous êtes fait éliminer, pense que le football, tu peux te blesser, tu peux avoir des soucis, le score il est acquis, il y a 5-0, oublie les stats.
T'as marqué un but.
Voilà, t'as marqué ton but. Non, Jonathan, je suis désolé. Prépare le match de Dortmund, accepte que ton entraîneur ait choisi aussi de faire jouer des internationaux, des joueurs qui ont une belle carrière, comme Icardi, comme Cavani, qu'eux aussi ils ont besoin de temps de jeu.
T'as
et que toi
là-dessus.
Ton objectif c'est Dortmund, et que pour ton image, pour l'image de ton club et pour pas nous faire parler, nous, observateurs, eh ben, prends sur toi, va parler avec lui demain pour lui dire, moi, j'aime vraiment pas sortir.
C'est facile de dire ça.
Reste concentré. Mais non, c'est pas facile. Parce que c'est ça, le footballeur de haut niveau. Alors, il faut être un exemple.
C'est facile de dire ça à froid, mais je pense que à chaud, déjà, t'es pas non plus aussi lucide que ça. Et moi, Sam, je me répète, ça ne me dérange pas dans la mesure où son comportement est cohérent sur la durée. Il est toujours comme ça. Et je pense que ça lui sert de ce petit défaut. Je suis d'accord avec ce que tu dis, hein. Si on raisonne de manière rationnelle, t'as raison. Mais je pense que ce petit défaut-là lui sert, tu vois, c'est ça qui fait qu'il est aussi compétitif, qu'il progresse autant qu'il progresse. C'est ça qui fait qu'il s'améliore de saison en saison. C'est ça qui fait qu'il est au niveau auquel il est, à l'âge auquel il est. C'est ça qui fait qu'il a les stats qu'il a, à l'âge qu'il a. Donc pour moi, ça me dérange pas. Après, encore une fois, tout sera remis en cause s'il se recaque dessus en Ligue des Champions. Et là, je te dirais, ouais,
oui, t'as raison. C'est à ça qu'il s'expose aussi. Tu vois, s'il est pas bon ou fait pas la différence en Ligue des Champions et que Paris sort en 8e de finale, ça va remonter
mais
tout tu ça,
sais quoi
tu vois.
J'assume de dire ça parce que j'ai même l'impression que lui aussi assume, et je trouve même sa limite avec, je trouve que c'est même presque un peu du panache, tu vois, de montrer, voilà, ouais, de bien l'ouvrir.
Je vois ce
bah,
que
par
tu veux
contre
dire.
Attention, c'est si vrai, tu l'ouvres autant, faut assumer. Mais s'il l'ouvre autant et qu'en Ligue des Champions il claque un triplé contre Dortmund et qu'après en quart il qualifie le Paris Saint-Germain, et ben bah, écoute, moi toutes les réserves que j'ai sur lui, je les enlèverai et j'irai lui cirer les pompes comme tout le monde. Mais,
oh. Guillaume, tu veux rajouter quelque chose?
Oui, mais est-ce que par exemple, est-ce qu'il fait ça avec Deschamps en équipe de France? Mbappé.
Eh, c'est pas faux. Bonne remarque.
Aussi.
Bonne remarque. Pas vraiment, mais il sort pas beaucoup en équipe de France.
Il est sorti en équipe de France. Il a jamais vu ça avec Deschamps.
C'est non, vrai. Mais c'est, on y revient toujours au même problème. C'est l'incarnation d'une autorité qui manque au Paris Saint-Germain.
On va pas comparer Deschamps et Tourelle. Hein.
Je vais te dire que Leonardo devrait presque aller parler à Mbappé.
Peut-être
que Mbappé écoutera Leonardo.
Leonardo
ne
va pas laisser passer ça.
Mais attends, franchement, le problème, encore une fois, je vais me répéter, mais le problème, ce n'est pas pour moi que Kylian Mbappé fasse la gueule quand il sorte. Parce qu'en fait, tout l'épisode là dont on parle, c'est Tourelle qui le crée. C'est lui qui en fait va voir Mbappé et qui crée cette scène-là.
Non, je suis pas d'accord. Au départ, t'es comme un joueur. Attends, c'est le comportement de Mbappé qui déclenche tout ça.
Vous l'avez
Tourelle,
vu.
Gère mal le moment. Moi, mais c'est quand même Mbappé qui répète régulièrement ce genre de comportement.
Non, mais attends, Nico, tu l'as vu en direct comme moi, ce qui s'est passé. Pour moi, franchement, quand il sort du terrain, tu vois qu'il fait la gueule, mais tu t'attends pas à ce que ça se termine en drame. Là où ça part en cacahuète, c'est quand Tourelle lui met les mains autour de la tête et commence à lui parler, à lui dire, alors que lui, l'autre, il a juste envie, c'est de remonter, s'asseoir et ne plus y penser.
Mais t'écoutes ton coach en fait, quand tu sors du terrain, même s'il veut te parler, tu l'écoutes.
C'est lui
parce que Mbappé, c'est le collégien insolent.
Comme tu dis,
écoute pas son prof qui le réprimande.
Et Kevin, Guardiola,
parle-moi, ça m'intéresse
Guardiola
pas.
Qui a un groupe de stars à gérer, lui, quand il sent qu'il y a une petite tension, il les calcule pas. Je pense que c'est
ça,
la meilleure des manières à faire.
Je suis d'accord là-dessus.
On a beaucoup d'appels évidemment au 32-16 sur le sujet, mais on va fermer la parenthèse. On en parlera peut-être plus tard ou pas. D'ailleurs, je rappelle que dans 17 jours, le PSG sera à Dortmund pour affronter le Borussia en 8e de finale aller de Ligue des Champions. Merci beaucoup. Comment? Ouais. Jonathan, dis-moi.
Non, on parle pas de Neymar et Paredes.
Si justement, j'allais venir sur le bon, ces photos, c'est anecdotique, mais c'est sympathique. On se rappelle que Delors avait allumé les comportements de Paredes et Neymar au match aller, en disant même que Paredes était encore plus un comportement beaucoup moins classe que Neymar sur le terrain, à insulter en permanence.
C'est une de ces...
Aujourd'hui, Delors a eu des propos très positifs en disant qu'il a joué le meilleur PSG qu'il a rencontré depuis qu'il affronte le PSG. Bon, il s'était dit, c'est un élément Montpellier, hein, ça a forcément aidé le PSG. Et derrière, Neymar et Delors ont récupéré le maillot de Neymar et Paredes de Delors et ont posté une photo sur leurs réseaux sociaux.
Et la légende, c'est quoi?
Et ont fait signer le maillot de Delors par Andy Delors. C'est sympa. Voilà.
Bah oui, c'est sympa. Ouais.
Mais oui, non, mais ça va. Pas
sympa.
De polémique, évidemment. Il nous reste 3 minutes avant d'accueillir les Drôles de Dames pour parler du match de demain soir. Le gros match de demain soir. Alors, c'est plus forcément une grosse affiche en Ligue 1, puisqu'il y a une équipe qui est larguée en Ligue 1, c'est Bordeaux. Marseille est en deuxième. Mais demain soir, 21h, Bordeaux Olympique de Marseille, Matmut Atlantique, 1977-2020. 43 ans que l'OM n'a pas gagné à Bordeaux. On est avec Anthony, supporter Marseille au 32-16. Salut Anthony.
Salut.
Je te pose une question, Anthony, au préalable. Est-ce que toi, tu t'en fous ou pas de cette stade, de cette malédiction, comme les journalistes l'appellent tout le temps un peu facilement?
Bah, je m'en fous, parce qu'il ne faut pas y faire gaffe. Parce que sinon, on va à Bordeaux, à chaque fois, on perd, et on pense quoi, nous, les supporters? On va à Bordeaux se faire taper et on rentre chez nous. Il faut se dire qu'on va y aller et puis qu'on va gagner ou faire un résultat. Enfin, ça, il n'a pas perdu depuis fin octobre.
C'est vrai.
Bordeaux, ils sont dans le ventre mou, et après, eux, contre Marseille, c'est le match de l'année, quoi. Ils n'ont pas perdu depuis 77. Et après, ils ne veulent pas perdre. Mais je pense que Marseille, demain, peut gagner à Bordeaux.
Je crois que les Bordelais, c'est une hantise, c'est pas tant de gagner, c'est surtout de ne pas perdre, en fait. De ne pas être l'équipe qui a stoppé la série historique.
Mais en fait, qui peut jouer en la faveur de l'OM demain, c'est que, ce qui est un peu marrant, c'est que c'est après la défaite contre Marseille, 3-1, que ça part un peu en cacahuète à Bordeaux. Je sais pas ce que t'en penses, Nico.
Ah ouais, ça joue là-dessus. Bordeaux mène 1-0 au Vélodrome.
C'est ça, ouais.
Bordeaux est 3e de Ligue 1 et après Bordeaux s'effondre.
Et après Bordeaux enchaîne les séries, une série assez catastrophique. Avant le match, la victoire contre Nantes, je restais quand même sur 4 défaites consécutives. La greffe avec le petit Houdin, je suis pas convaincu qu'elle soit totalement prise. Il vient d'arriver, donc c'est pas pour tout de suite. Même si on en rit et que je sais que les supporters bordelais moquaient un petit peu son manque de régularité, mais Tchouaméni, c'est une vraie perte pour ces Girondins-là. Écoute, s'il y a une année où tu peux prendre Bordeaux, c'est cette année. Après, en 40 ans, on a eu l'occasion de se le dire, allez, cette année, c'est la bonne. Je me rappelle encore du match sous l'air Marcelo Bielsa, où là, on se fait, oui, je dis, c'est pas grave, mais on se fait, mais c'est même pas volé, c'est même pas escroqué, c'est qu'on se fait, il n'y a pas de mots pour nous dire ce que l'arbitre nous fait, avec les deux buts refusés à Romain Alessandrini. Il y a eu, voilà, tellement d'épisodes que ce match-là, j'ai l'impression qu'il est un petit peu hors du temps. Tu peux avoir un Bordeaux qui est totalement à la ramasse, mais il y a tellement une ambiance un petit peu particulière quand c'est Girondins de Bordeaux, Olympique de Marseille à Bordeaux, que ce match là il est imprévisible. Et il y a encore un petit truc en plus, la petite dose de sel là pour le match de demain, c'est que Rennes a gagné vendredi et que Marseille, son petit matelas d'avance, il faut le défendre. Donc victoire impérative pour l'Olympique de Marseille demain.
Est-ce que...
Et victoire impérative, surtout le calendrier qu'a Marseille après Bordeaux.
Ouais.
Ils reçoivent mercredi. Non, oui.
Mercredi, ils vont à Saint-Etienne. Hein.
Ils vont à Saint-Etienne.
Oui, ils n'ont plus gagné depuis 30 ans. Hein.
Après, ils reçoivent le samedi et après, ils sortent encore deux points. Ils vont à Lille et à...
C'est Saint-Etienne qui a pu gagner à Marseille.
Lille et...
Ouais, je l'ai plus là.
Ouais. Et juste, fois, là sur les
Marseille-Toulouse matchs, après, hein, 8 février, donc ouais. Ça va aller, a priori. Hein. Et déplacement à Lille le 6 février.
Par rapport à ce que nous dit notre éditeur, dernière petite chose qui me semble assez importante de noter, c'est que j'ai l'impression que ce match-là, il est plus important pour les Bordelais que pour les Marseillais.
Mais évidemment.
Rappelons-nous ce que Benoît Costil, ça fait 3 semaines qu'il parle de ce match-là. À Marseille, les joueurs. Ils en parlent
pas.
Oui,
lui, il a prévenu tout le monde. Il a dit, les gars, c'est le match de l'année contre Marseille, on perd pas.
Moi, je pense, Anthony, messieurs, qu'il y en a un qui doit y penser quand même, le connaissant un peu en compétiteur. C'est un certain André Villas-Boas qui aimerait bien, je pense, marquer l'histoire du club et marquer l'histoire de l'OM en allant enfin gagner à Bordeaux. Et donc, il va, bien sûr, comme il le fait, très bien préparer ce match. En plus, c'est un peu le derby des entraîneurs portugais. Donc, il retrouve toujours un entraîneur. Et attention quand même, parce que j'ai quand même noté quelque chose d'intéressant quand je regardais le match cet après-midi. Si les Marseillais mènent au score, il y a une minute qu'il faut faire attention. Jonathan, tu la connais ou pas?
Non.
C'est la 88e.
Ah ouais.
Parce que ça ça fait déjà deux fois en 15 ans que les Marseillais se font rattraper.
Le but de Fernando à la 88e égalisation bordelaise.
Mais là, cette année.
Merci, Anthony. Anthony, tu veux finir rapidement?
Non, ça va. J'allais juste dire, même quand on a été champion, on n'a pas gagné à Bordeaux.
Mais bon, franchement, à l'arrivée, tu préfères être en Ligue des Champions que de battre Bordeaux, on est d'accord?
Ben oui, mais bon, là, ça serait bien de gagner quand même.
Anthony, cette année, c'est la bonne.
Oui, non, mais je pense aussi.
Merci Anthony. Merci. Tu reviens quand même dans l'after. Excellente soirée à toi.
Si Marseille gagne à Bordeaux dimanche, je m'engage à mettre le très beau t-shirt que le chroniqueur du Fossé 1, le travail de l'ombre, m'a gentiment offert. Donc merci à lui. Regardez ses vidéos sur le Fossé 1, les analyses tactiques de chaque match de l'OM. Il fait un travail de titan et c'est vraiment de très très bonne qualité. Donc voilà, le travail de l'ombre sur le Fossé 1.
Voilà, dans un instant, les drôles dames arrivent dans l'after. Hein. Paulo Breitner, Fred Hermel et Julien Laurence dans le désordre pour évoquer leur week-end européen. À tout de suite.
RMC jusqu'à minuit.
L'after foot. Nicolas Jamain.
Avec Kevin Diaz, avec Jonathan McCarty, on est ensemble jusqu'à minuit. Voilà pour le football français, on a fait le tour. Place maintenant au football étranger. Mais on va parler de footballeurs français à l'étranger, de footballeurs français en Espagne. Salut Fred Hermel.
Hola chicos.
Comment va?
Salut Fredo.
Salut Fred.
Ah bah j'ai vu un match important aujourd'hui.
T'as vu la victoire du Real Madrid sur l'Atlético de Madrid, 1-0, Benzema 13e minute, 13 points d'écart désormais. Bye bye l'Atlético, qui ne reverra plus, mais ça on le savait déjà. Le Real, cette saison en Liga. Mais Fred, hier, on voulait prendre le temps de parler d'un Français qui est en train de s'imposer, ça y est, au Real, c'est Ferland Mendy. Et il se trouve qu'il était décisif aujourd'hui.
Bah oui, parce que Ferland Mendy a été tout simplement le meilleur joueur du match, tout simplement. C'est-à-dire qu'il a été d'un point de vue défensif. Alors déjà, on va expliquer une chose, c'est un derby et ce n'est pas Marcelo, légende du club, vice-capitaine qui a joué. C'est Ferland Mendy. Donc c'est fort comme choix Zidane, parce que mettre Marcelo sur le banc contre l'Atlético à domicile, faut être quand même sûr du choix et de son remplaçant quand même. Hein.
Bien sûr.
Et donc il y avait une sacrée pression sur Ferland, qui a fait un match brillantissime, qui a été, qui a physiquement, il est au-dessus de tout le monde, Hein. C'est-à-dire que les allers-retours qu'il fait sur son côté gauche, c'est impressionnant. C'est-à-dire qu'il fait un travail défensif que Marcelo n'a jamais fait de sa vie. Et encore moins depuis qu'il a dépassé la trentaine. Il est nickel défensivement. Et puis offensivement, on lui reprochait de ne pas être toujours très précis dans ses centres. Bah, sauf que celui qui fait à la 56e minute, très belle ouverture, très belle passe de Vinicius qui fait une bonne entrée pour Ferland Mendy, côté gauche, qui centre magnifiquement pour Karim Benzema, qui jaillit, tel un numéro 9 qu'il est. Et là, du plat du pied droit, première touche de balle, voilà, Benzema bat au black, parce qu'au black, de toute façon, t'as pas intérêt à réfléchir, t'as pas intérêt à contrôler, ouais. Parce que sinon, il arrête.
Et il la touche en plus.
Et en plus il la touche, c'est vrai. Donc, et d'ailleurs, Zizou disait que ce qu'il avait beaucoup aimé dans ce but, c'était d'avoir été capable de construire une si belle action, dans une, face à une équipe aussi forte défensivement. Parce que l'Atlético est l'équipe qui va moins bien. Enfin, je peux te dire que Liverpool, ils vont pas gagner 5-0 contre eux.
Ouais, t'as raison.
Mais parce que c'est vraiment une des équipes.
Ils ont fait un bon match, Fred, l'Atlético.
Tiens, Fred, attends, on va parler
de limité devant.
Bah oui, ouais, surtout que Morata se blesse en plus, leur seul numéro 9
ouais,
valide.
En plus, ouais.
Attends, avant qu'on parle de l'Atlético également, je veux qu'on écoute une réaction que tu as recueillie après le match, celle de Raphaël Varane, qui parle de Fernand Mendy. Et je veux votre avis, messieurs Kevin et Jonathan, sur l'évolution de ce joueur.
Nous, on l'encadre bien. Après, on fait en sorte qu'il se sente bien dans le vestiaire, dans le groupe. Il parle pas encore trop espagnol, mais voilà, on s'occupe de lui avec Karim notamment. Donc, non, c'est très bien. Après, il est en train de confirmer son potentiel. Son point fort, c'est défensivement. Après, il a un physique aussi qui lui permet d'enchaîner les efforts. Et il fait du bien à l'équipe. Faut qu'il continue comme ça. En tout cas, il confirme tout son potentiel.
Ça va, il est sous bonne protection également.
Ouais, il a un physique qui lui permet de multiplier les efforts.
Ouais.
Elle est là, la phrase.
Mais c'est sa qualité première, en fait. Ferland Mendy, le Ferland Mendy qu'on connaît, qui était excellent au Havre et qui a éclos à Lyon, c'est un joueur qui, par rapport à cette tendance des latéraux modernes, qui lui, défensivement, il est fiable. Il est fiable, voilà. Je trouve qu'il sait très bien s'aligner avec sa charnière. Il est très intelligent dans ses placements. C'est avant tout un défenseur. Et il a un coffre qui est assez incroyable. Alors, il peut encore progresser, je pense, tu vois, dans les 30 mètres adverses, où parfois il est parfois encore un petit peu brouillon. Mais ce qui est vachement intéressant avec lui, c'est qu'en plus d'être très fort défensivement, il a quand même un bon pied gauche, je trouve. Sa qualité de centre, voilà, ça s'invente pas, ça s'achète pas. Lui, il l'a. Maintenant, c'est juste, voilà, être un petit peu plus lucide dans les 30 derniers mètres, et ça deviendra un des meilleurs latérales gauche au monde.
C'est une très bonne nouvelle.
Déjà, ça évolue. Également début de saison. Hein. Cette lucidité-là, elle a, c'est plus la même qu'au début de saison. Hein. Franchement, hein. Et moi, j'ai eu l'occasion de le voir la semaine dernière entre deux portes à Valdebebas, et on a discuté un petit peu off, comme on dit. Et je lui ai dit, mais j'ai vraiment le sentiment que t'es beaucoup plus à l'aise, t'es moins impressionné par le Bernabéu. Bah, il m'a dit,
ouais, mais
ça,
il faut prendre la mesure quand tu veux.
Il se lâche maintenant, il est là depuis 6 mois. Et donc, moi, je trouve que c'est une merveilleuse surprise. Certains s'étaient foutus de ma gueule, pas vous, les enfants. Mais quand j'avais dit que Mendy allait jouer avant Noël plus de matchs que
Marcelo,
c'est déjà le cas. Ouais. Mais là, maintenant, là. Mais
après, c'est la bonne saison
Kevin,
pour
arriver.
Il y a quand même une chose dans ton interview de Raphaël Varane qui, pour moi, est ultra importante et très intéressante. C'est quand il dit, et pour l'avoir vécu en tant que joueur français à l'étranger, quand tu arrives, tu connais pas la langue, tu arrives dans un nouveau pays, dans un nouveau championnat, et tu as deux joueurs qui sont français, qui peuvent t'accueillir, qui sont des cadres du vestiaire, qui peuvent t'accueillir, qui peuvent, voilà, on va dire. Comment dire, pas te babysitter, mais presque, tu vois.
Si, te coucouner.
Te coucouner, comme tu dis. Franchement, pour lui, c'est vraiment une situation. Mais, et en plus,
c'est pas l'accueil de Griezmann à Barcelone.
Voilà, exactement. Non, et en plus, t'as l'entraîneur, t'as Zidane. T'as Zidane comme
en plus,
entraîneur.
Parce que moi, je me souviens que Karim Benzema, quand il arrive à Madrid, 21 ans.
Et Anelka,
alors. Maison, il dort l'hôtel, il pleurait le soir dans sa chambre.
Et Anelka.
Ah ouais.
Ah bah non, mais c'est vrai, bah il me l'a déjà dit, ouais. Parce que c'est pas facile de quitter sa famille, de quitter son pays.
Il a quitté son club de formation. Bah voilà, Mendy avait déjà fait une étape en partant du Havre en allant à Lyon.
Oui, mais tu sais, partir loin de son pays.
Ouais, il y a pas de souci.
Fred, t'as pleuré toi tes premières nuits à Madrid ou pas?
Oh bah oui.
C'est vrai?
Je suis arrivé, j'avais 22 ans. D'un côté, t'as le rêve, d'un quelques jours, t'as le rêve, tu réalises ton rêve, etc. Puis à un moment, t'es confronté à la solitude.
Et oui, c'est ça.
Moi, j'avais pas de thunes en plus, donc.
Alors que maintenant.
Mais Mendy, ça va au niveau de la thune.
Non, mais tu sais, l'histoire, ça joue à pas grand chose, hein. Moi, j'arrive au mois d'octobre, au mois de décembre, j'ai plus de thunes. Je suis à 15 jours de devoir rentrer en France et il n'y a pas cette histoire-là, hein. Ça s'est joué à une copine qui m'a
pris. De Zizou qui arrive à Madrid.
À l'époque, quelques milliers de pesettes. Voilà.
Voilà pour le cas Fernand Mendy. Tiens, parlons également
du. C'est top pour les bleus. Hein.
Voilà, top pour l'euro, pour les bleus. Et la jaquette sélection de garçon, on a une vraie solution à gauche, hein, latérale. Ouais. Même si on a déjà des. Quoique, non.
Oh, pour moi.
Ben ouais, non, parce que du coup, là.
Non, mais pour moi, Lucas, c'est
Lucas,
le meilleur.
On sait plus
c'est central.
Non, pour moi, c'est le meilleur défenseur central français.
On est d'accord.
Oui, mais les gars, mais moi je pense Deschamps. Et parlons Deschamps, les gars. Deschamps pour Deschamps. Lucas Hernandez est à gauche.
À moins qu'il
joue en 3-5-2. Raphaël Varane est dans l'axe avec Clément Lenglet ou éventuellement Samuel Umtiti plus tard.
Lucas, latéral,
mais Lenglet ou Umtiti, c'est pas génial.
Du coup, là, on a une vraie doublure, voire lui en numéro 1 à gauche. Écoute, vu que Lucas ne joue toujours pas.
Vu que Lenglet ou Umtiti, c'est pas clair au Barça en ce moment. Une défense avec Mendy à gauche, une charnière centrale, axe gauche, Lucas, axe droit, Varane.
Mais les gars, Lucas, ça fait des mois qu'on a pas vu jouer.
Ça a de la gueule quand même.
Lucas, ça fait des mois qu'on a pas vu jouer.
Non, mais surtout, un petit truc par rapport à Mendy, c'est-à-dire que Deschamps regarde beaucoup le nombre de minutes disputées dans chaque. Par chaque joueur dans
son équipe. À part par pour
Giroud.
C'est
sûr de ça,
là, il va jouer. Là, en tout cas, il va jouer beaucoup, beaucoup.
Ouais, mais Deschamps, il ne regarde pas ça, Fred. Hein, t'inquiète.
C'est important.
Deschamps, il ne regarde pas les minutes jouées. Sinon, il y a plein de joueurs qui seraient pas en bleu.
Fred, un Zidane assez honnête. Bon, il gagne 1-0 après une première période ratée. Ouais. Il a reconnu qu'il s'était planté.
Oui, parce qu'en fait, il met la même tactique et le même système que lors de la finale de la Supercoupe d'Espagne contre l'Atlético, c'était il y a 3 semaines. C'est-à-dire qu'il joue avec en 4-5-1 avec Benzema devant, mais un milieu à 5. Ouais. Donc avec Isco, avec Valverde, avec Modric, avec Kroos et avec Casemiro. Et en fait, ce qui avait marché il y a 3 semaines ne marche pas. Et là, moi, ce que j'aime chez Zidane, c'est que c'est pas du genre à dire c'est comme ça, ce sont mes joueurs.
Réaction tout de suite.
Il s'est planté. À la mi-temps, il change. Qu'est-ce qu'il fait? Il revient en 4-3-3. Il fait sortir Kroos et il fait sortir Isco. Faire sortir Kroos, et il en était malade. Hein. Zidane, il dit pour moi, c'est terrible de devoir faire sortir deux joueurs et de montrer du doigt deux joueurs alors que c'était pas de leur faute. C'est parce que moi, je m'étais planté dans mon système.
Ouais, mais...
et c'est vrai qu'il a vachement ouvert le jeu avec Lucas Vázquez d'un côté et Vinicius de l'autre. Mmh. Et c'est cette ouverture qui ouvre des espaces et qui permet le but du Real. Donc, moi, quand on dit que Zidane n'est pas un grand tacticien, ben voilà.
Ouais, il a une très belle lecture du match.
Il réagit super bien. Et il y a un joueur que Zidane a fait éclore pour moi. Qui pour moi est un phénomène.
C'est Valverde.
Valverde, mais ouais,
c'est impressionnant.
Je te l'ai déjà dit.
Ça coûtait 0€, hein.
Voilà.
Quand il voulait faire venir un Pogba à 140.
Pogba encore, mais il voulait faire venir Van de Beek. Vous savez que j'aime bien les Néerlandais. Mais Valverde, il a deux Van de Beek dans chaque pied, hein. Ouais. Magnifique.
Mais surtout, moi, ce qui me plaît chez Valverde, c'est le coffre qu'il a. Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des joueurs en Real comme Mendy, comme Valverde, comme Casemiro, qui ont un coffre, c'est-à-dire une résistance physique et pulmonaire qui est impressionnante. C'est-à-dire que c'est des mecs qui
compensent les vieux
à fond pendant 90 minutes.
Ils compensent un peu les vieux, je trouve.
Oui, bah ils sont là pour ça. C'est-à-dire que t'as pas besoin de les faire tourner. Un Modric, tu le fais tourner. Valverde, t'as pas besoin de le faire tourner beaucoup.
Non, c'est clair.
Mais moi, je trouve que alors le Real Madrid, ça y est, là, le Real a 6 points d'avance sur le Barça qui reçoit les Ventés demain.
Oui.
C'est-à-dire que c'est un derby. C'est en général un derby, c'est 0-0. Hein. Le Real n'avait pas gagné en Liga contre l'Atlético chez lui. Donc à Bernabéu depuis 2012, c'était pas évident. Hein. Et donc c'est un match encore un match compliqué que le Real a su gérer. Alors ça n'a pas été le plus beau match de la saison. La première période était assez ennuyeuse, mais voilà, c'est des matchs comme ça qu'il faut remporter. Et en plus là, jeudi, il y a un très beau match de coupe. En quart de finale de coupe, le Real reçoit, ça sera un match sec, la Real Sociedad, qui est une équipe qui lui convient beaucoup mieux parce que le Real prend beaucoup plus de plaisir face aux équipes offensives et ça va beaucoup mieux face à une Real Sociedad que face à un Atlético. Et de l'autre côté, on aura l'occasion d'en reparler, vous avez un magnifique Athletic Club de Bilbao contre le Barça qui est la plus belle affiche de
cette.
Donc il se passe il y a vraiment de beaux matchs en ce moment en Espagne. J'aimerais qu'on dise un mot aussi parce que,
vas-y.
On l'a écouté, c'est Raphaël Varane. C'est-à-dire que Varane, le match qu'il fait encore aujourd'hui, c'est celui d'un patron. Il est même meilleur, il est même devenu meilleur que Ramos. Parce que il a pas ces envolées lyriques un petit peu que Ramos, par moment, un coup de temps en temps, ça le démange, il a envie de marquer un but.
Ouais, il en loupe deux en début de match d'ailleurs.
Exactement. Mais Varane est aujourd'hui d'une sûreté et d'une maturité, d'une tranquillité, d'une sérénité qui fait extrêmement plaisir et qui est de très bon augure.
Et je rappelle que le Real n'a plus perdu un match depuis le 19 octobre dernier. Voilà.
Donc 21 matchs sans défaite. Mais le 19 octobre, le Real Madrid avait perdu à Mallorca et Zidane avait failli être viré 3 jours après.
S'il
ne gagnait pas à Galatasaray. Et le Real Madrid, finalement, n'a perdu que 2 matchs cette saison.
C'est un peu le Thierry Loret de Madrid.
J'ai commenté sur ce qui aurait pu être le dernier match de Zidane à Madrid, c'était le Galatasaray Real.
Et Hazard, il revient.
Les gars, stop!
Prochain match? Ok.
Non, Hazard a repris l'entraînement. 3 secondes. Mais pas encore à fond. Ok. Mais je pense que ça va prendre un petit peu de temps avant qu'il soit titulaire.
Ok.
Merci Fred. Ciao, Fred. Merci Fred. Excellente soirée à toi. Très vite dans l'after, bien sûr. Dans un instant, arrive dans l'ordre Paulo Breitner et Julien Laurence. Ça faisait longtemps, t'as Julien Laurence.
On dirait du resto.
Et on est ensemble jusqu'à minuit. On dirait du resto ou du trottoir du resto. À tout de suite.
RMC, l'After Foot, Nicolas Jamain.
Avec Jonathan Macardy, avec Kevin Diaz, bien sûr. Il nous reste une grosse dizaine de minutes pour partir en Angleterre. Mais d'abord, faire une halte en Allemagne. L'Allemagne, Deutschland, représentée dans l'After par Paulo Breitner. Bonsoir, Paulo.
Bonsoir, Nico. Bonsoir, messieurs.
Salut, Paulo.
Paulo, alors évidemment, beaucoup de choses à dire avec toi. Tu as beaucoup bossé ces 17 prochains jours, hein, comme d'hab. Je rappelle la date, hein, 18 février, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, match aller, 8e de finale de Ligue des Champions. Donc, on a bien sûr un œil à viser avec Paulo sur les performances du Borussia plus qu'à la normale, quant à normale. Et il se trouve que le Borussia a fait exactement comme le PSG, s'est imposé 5-0, mais à 11 contre 11 face à l'Union de Berlin. Comment tu juges l'évolution du Borussia depuis le début 2020, Paulo?
Bah, écoute, ils avaient un début de championnat relativement facile et important pour monter en puissance, puisqu'ils commençaient à Augsbourg, puis deux matchs à domicile contre Cologne et l'Union de Berlin. 5 buts à chaque fois, donc ça, offensivement, c'est très très intéressant. Et puis défensivement, 3 encaissés contre Augsbourg, 1 contre Cologne, et puis aucun contre l'Union de Berlin. À mon avis, à ce niveau-là, c'est un paramètre à prendre en compte. Maintenant, il y a 2-0 à la mi-temps là contre l'Union de Berlin, qui était évidemment une équipe beaucoup plus faible que Dortmund. Le problème, c'est que si tu veux, quand tu vois le début de deuxième mi-temps, t'as toujours un côté lymphatique au Borussia Dortmund, comme s'ils ne voulaient pas appuyer sur le champignon, et ça peut leur jouer des tours. Ils ont encore perdu quelques ballons, et Favre a décidé encore une fois à jouer en défense à 3 avec Piszczek, alors, et puis rappelons-le, Zagadou est quand même rentré à l'heure de jeu, oui. Ce qui était intéressant. Mais, si tu veux, moi, ce qui m'impressionne, c'est que ça marche de mieux en mieux devant. Alors, évidemment, on parle de Hollande dans tous les sens, qui fait encore un doublé contre l'Union et il provoque un penalty. Moi, je note surtout qu'il vient rechercher aussi les ballons aux 30-35 mètres. C'est-à-dire, c'est pas juste un joueur qui prend la profondeur tel qu'on a parlé ou qui reste au point de pénalty. Il n'est pas encore à 100%, faut pas l'oublier non plus. Hein. Ça, c'est, mm-hmm. Même lui le dit, donc c'est intéressant. Sancho, moi, m'impressionne beaucoup en ce moment. Marco Reus aussi. Hazard a été, puisque Hollande était titularisé, Hazard a été un peu le sacrifié. Donc j'attends de voir tout ça, mais ce que je constate, c'est qu'il y a une forme d'euphorie autour du Borussia Dortmund et qu'ils se sont pas trompés avec l'arrivée de cet attaquant. Et tout le monde en gros est vraiment content parce que ça n'a l'air de rien, mais le Borussia Dortmund redevient quelque part un potentiel candidat au titre au-delà de la rencontre évidemment contre le PSG.
Et Emre Can hein, qui a signé également au Borussia pour solidifier la défense qui était un petit peu le talon d'Achille justement du Borussia. Messieurs.
Moi, Paulo, il y a un joueur qui m'a vraiment impressionné parce que forcément on regarde de plus en plus cette équipe de Dortmund, mais c'est, est-ce que je dis bien son nom, mais Brandt. Mais franchement, mais aujourd'hui, je l'ai trouvé exceptionnel. Il sait tout faire, ce mec-là.
Bah, le problème, si tu veux, c'est que c'est un milieu offensif de formation qui a plutôt joué sur les ailes, notamment lors de son passage à Leverkusen, et qu'aujourd'hui dépanne au poste de 6, parce qu'en fait, c'est lui qui prend la place de Delaney, qui est encore blessé. Il risque d'ailleurs de perdre sa place si Emre Can est positionné au poste de milieu défensif. Alors, c'est vrai qu'il faut, je pense qu'il faut faire attention entre le jeu en Bundesliga qui est porté vers l'avant, parce qu'on a quand même, on a quand même 5 joueurs à vocation offensive au départ, et encore, je parle pas des latéraux, Guerrero et Hakimi quand même, qui sont des sacrés pistons. Mais si tu veux, le problème c'est qu'il perd beaucoup de ballons au milieu de terrain. Alors ça s'est pas trop vu dans ce match-là. Il prend des risques. Le problème, c'est que si tu veux, quand tu vois la rapidité des Parisiens, qui peuvent la façon dont ils peuvent se projeter, ça risque d'être dangereux. Et c'est ce qui est arrivé contre Augsbourg lorsqu'ils ont été menés 3-1. Julian Brandt perd des ballons. Contre Cologne, c'est ça aussi un petit peu. Et lorsqu'on parle, on en discutait avec Pierre Ducrot il y a quelques jours. En fait, le problème, c'est pas de dire qu'il y a pas de bons ou de mauvais défenseurs. C'est qu'il y a souvent un décalage de 30 mètres entre les deux milieux défensifs ou théoriques milieux défensifs, parce que c'est Witzel aussi qui est pas le plus mauvais ballon au pied. Et la défense centrale. Et ça, c'est un peu quelque chose qui me perturbe un petit peu. Mais ça fait partie du jeu du Borussia Dortmund qui est de toute façon porté vers l'avant. Donc j'ai envie de dire, comme Marcel Reif, qui est un journaliste très connu en Allemagne, il dit l'équipe la plus fantastique d'Europe lorsque ça joue bien au ballon, c'est sûrement le Borussia Dortmund. Le problème, c'est quand ça ne marche pas, bon, on voit toutes les lacunes.
Ouais, l'équilibre est fragile encore.
Voilà, c'est ça.
T'as vu, on a attendu 5 minutes avant de parler de Haaland.
C'est très bien.
T'as vu?
C'est très bien parce qu'il
mais on va fait... parler quand même.
Ouais.
Parce qu'il a marqué un doublé ce soir, 7 buts en quoi, en 120 minutes grosso modo. Il est devenu le premier joueur de l'histoire des Modestega à inscrire 7 buts lors de ses 3 premiers matchs. Voilà, il a marqué 7 fois en 7 tirs cadrés.
C'est incroyable.
7 fois 7 tirs cadrés.
C'est intéressant parce qu'en fait, si tu veux,
il a provoqué un penalty aussi, Paulo.
Moyen et il provoque un penalty. Bon, il est assez généreux, mais ouais. Mais il le provoque bien. Moi, c'est encore une fois ce qui m'a plu, c'est qu'il revient notamment sur le but de Witzel. Il revient aux 35 mètres pour chercher le ballon et pour faire l'avant-dernière passe, notamment en décalant Sancho. Donc, si tu veux, t'as presque l'impression qu'il est déjà complet entre guillemets à 19 ans. Il marque un très beau but pour son premier puisqu'il est très bien décalé au deuxième poteau. Il sort de nulle part alors que personne ne le voit. Enfin, il fait quand même 1m94. Hein. C'est pas le plus petit. Mmh. C'est un monstre physique, on le voit. Mais surtout, je le trouve techniquement largement au-dessus de la moyenne. C'est-à-dire, si on dit qu'un Sancho est technique, on le voit, on le comprend. Si Marco Reus, par rapport à son gabarit, ouais, est technique, on le comprend. Mais là, quand tu vois Hollande, le
c'est
gars,
ça,
il
sait ça. C'est ça qui est impressionnant. C'est sa mobilité.
Pour un mec de 1m94.
Son, son gabarit, et sa qualité. Quoi.
Sur le premier but, tu sais que la technique, c'est également l'intelligence du déplacement. Et cet appel contre appel là où il fait mine d'aller au premier poteau et hop il fait tout le tour et c'est lui qui est là à la réception de
c'est
ce bon
sens. C'est ça qui est vachement excitant avec lui, c'est qu'on sait pas jusqu'où il peut aller.
Mais le truc c'est que ce mec a 19 ans les gars.
Bah, c'est ouais. Ça ouais.
Il a 19 ans et s'il a encore une grosse marge de progression ça va être quoi? Parce que là c'est déjà un mutant le gars.
C'est ce que Paulo nous dit.
Il va devenir quoi à 24 ans 25 ans?
C'est ce que Paulo nous avait dit la semaine dernière. Paulo, c'est que t'as l'impression qu'il tu nous disais qu'à l'entraînement il était très à l'écoute, qu'il cherchait toujours à s'améliorer.
Bah en fait Lucien Favre est super content. Alors on sait que Lucien Favre a parfois un peu de mal à sourire. Il aime pas trop parler individuellement des joueurs, mais là il dit j'ai rarement vu un joueur comme ça. Alors on le sait, la carrière de Lucien Favre, c'est quand même quelqu'un qui a lancé un nombre incroyable de joueurs aussi bien en Suisse qu'en Bundesliga. Et lorsqu'il parle de Hollande, il dit mais j'ai rarement vu quelqu'un comme ça. Déjà il dit c'est un gamin bien. Hein, on sait très bien les polémiques qu'il peut y avoir avec les jeunes aujourd'hui. Il dit, il écoute tout le temps, il veut apprendre. Dès qu'il rate un ballon à l'entraînement, il s'énerve, il motive les coéquipiers, etc. Donc, qu'est-ce que tu veux de plus, quoi? C'est pour un entraîneur. Maintenant, encore une fois, la seule chose qui pourrait peut-être m'embêter, c'est que cette équipe de Dortmund a presque envie de dire qu'il manque un ou deux joueurs pour en faire une grosse machine européenne. Et on sait très bien que
derrière,
on sait très bien. Ouais, non, mais même derrière. Mais si tu veux, cet été, moi, je sais pas trop ce qui va se passer. Enfin, on peut le supposer. Tout le côté droit, Sancho, Hakimi, ça va être compliqué de les garder. Donc voilà, c'est un peu dommage. J'ai l'impression parce que t'as toujours l'impression, tu vois, quand t'es dans le top 10 européen. T'es pas dans le top 5 européen et le top 5 européen fait son marché dans le top 10 européen et c'est un peu pénible. Quoi.
Voilà pour le Borussia. Rendez-vous dans 17 jours pour ce 8e de finale aller de Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain. Il y avait un duel également important entre le premier et le troisième. Leipzig recevait Mönchengladbach. Et là, Mönchengladbach a fait réaliser le coup du week-end.
Bah écoute, c'est très intéressant ce que tu dis, Nico, parce que 5 Français au départ du terrain et un Mönchengladbach qui fait exactement ce qu'il faut, c'est-à-dire Nagelsmann contre Rose, c'est pas compliqué, c'est Guardiola contre Klopp. Hein. Le premier des disciples de Klopp, c'est Marco Rose, c'est un de ses anciens joueurs à l'époque où il était à Mayence, et puis c'est l'école de Salzbourg aussi. Ils ont fait exactement ce qu'il fallait, c'est-à-dire que techniquement Leipzig est sûrement supérieur à Mönchengladbach, mais le pressing ou le contre pressing qu'a mis Mönchengladbach était impressionnant au début de rencontre. Ils ont utilisé toutes les faiblesses actuelles de Leipzig pour mener 2-0 et notamment par un très beau but de Pléa. Et puis Pléa, il nous a fait un truc, il s'est pris un carton rouge à l'heure de jeu qui a changé toute la donne. Et ça a permis notamment grâce à un super pétron de Nkunku à la 89e d'égaliser à 2-2. Mais quand même, c'est la grosse information du week-end, c'est que Leipzig perd la tête de la Bundesliga puisque le Bayern l'a emporté logiquement.
Ouais, Paulo, on le sait maintenant, le Bayern va être champion là.
Ben, le problème, c'est que Leipzig est vraiment en train de. Si tu veux, ils ont été.
Ils paniquent un peu là.
Là, j'ai l'impression qu'ils sont pas contents du tout. Enfin, ça va pas du tout. Nagelsmann, tu vois bien que ça va pas. Il a changé deux joueurs à la mi-temps. Notamment, il a fait sortir Forsberg, il a fait rentrer Schick, il a fait rentrer Poulsen. Donc, il a mis que des attaquants devant, etc. Forsberg s'est retrouvé. Donc, Forsberg, théoriquement, c'est un titulaire indiscutable avec Sabitzer. Donc, c'est vraiment, si tu veux, la vieille garde qui est en train de se retrouver sur le banc. C'est un peu dommage.
Comment il se débrouille, Schick, à Leipzig?
Très très bien, 10 matchs si je raconte pas de bêtises, 5 buts, une passe et surtout j'ai l'inverse de ce que j'ai vu en Italie quoi.
Ouais, bah en Italie, il était, rappelle-toi, il était très très fort à la Samp.
Ouais, c'est ça.
Et le problème, c'est qu'il va à la Juve, il doit aller à la Juve, mais il lui trouve un problème cardiaque qui fait que son transfert avorte. Oui. Et là, ça part sa carrière part un petit peu en cacahuète. Mais c'est un joueur qui a un potentiel extraordinaire, qui est très fin techniquement. C'est pour ça, c'est vraiment un joueur à suivre, je pense. S'il arrive à relancer sa carrière en Allemagne, ça peut redevenir un très bon joueur.
C'est intéressant parce qu'il n'était pas titulaire au début de la rencontre. Il le fait rentrer à la mi-temps. Il a vraiment apporté une plus-value. Moi, je vois aussi parler un peu de Nkunku quand même, qui m'impressionne de week-end après week-end et qui est en train tranquillement. En fait, si tu veux, quand t'as Zabitzer, Forsberg et Kunku, ça arrête pas de bouger, mais il joue plutôt sur le côté gauche, en fait.
D'accord.
Et offensivement.
Offensivement. Okay. Ouais. Et puis, ensuite, t'as Timo Werner, mais qui a été très moyen, d'ailleurs, sur ce match-là, qui a raté beaucoup de choses, même s'il est très rapide. Mais c'est vraiment, la belle plus-value, je trouve, pour le moment du terrain. Et puis, je voudrais juste rappeler, quand même, qu'il y a un jeune qui s'appelle Olmo, qui est rentré. Techniquement parlant, il est pas mauvais du tout. Moi, je l'avais vu au championnat d'Europe des
U21. Avec l'Espagne.
Voilà. Mais par contre, c'est friable. Quand je dis c'est friable, c'est pas défensivement. S'il y a eu un duel ou pas Mécano, d'ailleurs, et Thuram, qui était assez impressionnant. Mais par contre, ils sont un peu trop faciles, quoi. Et en Bundesliga, dès que t'es facile, c'est pas bon. Parce que Mönchengladbach,
ils sanctionné.
Ils impactent, quoi.
Merci, Polo.
Merci beaucoup, monsieur.
Excellente soirée à toi. Très vite, bien sûr, dans l'after, à 17 jours de ce duel en 8e de finale de Ligue des Champions. Jacques et Julien Laurence. Bonsoir, Julien Laurence.
Salut Nico, salut à tous.
Salut Julien.
On zappe la case Liverpool 4-0 contre Southampton. On s'en fout.
Ouais, on s'en fout. Ils accentuent encore leur avance en tête du championnat.
C'est
avant
quoi,
le match de Manchester City demain.
La série, c'est combien maintenant de matchs sans défaite, de victoires consécutives? Tu les as en tête?
Donc ça fait 42 matchs de suite en Première Ligue sans défaite maintenant. Le record est donc 49 d'Arsenal. Je crois que donc ça fait 24 victoires en 25 journées, ce qui encore
73
une fois,
points après 25 journées. C'est fou.
Et le record d'Arsenal qui pourrait être égalé contre City, hein, c'est ça?
C'est ça, exactement. Ouais. D'ailleurs, date aussi où il pourrait être champion. En cas de victoire, s'ils gagnent tous leurs matchs entre aujourd'hui et le match de City le 4 ou 5 avril, ils seraient donc champions ce jour-là et pourraient égaler le record d'Arsenal. C'est assez incroyable et encore une fois, on se répète, mais sans forcément très bien jouer, notamment en première période où ils auraient pu être menés au score par une bonne équipe de Southampton. Ils s'en sortent grâce à Alisson et puis après ils font la différence en seconde période avec Salah, avec Firmino qui fait des passes DS, avec un Jordan Henderson qui joue peut-être à son meilleur niveau. C'est assez incroyable. Ouais. C'est un champion qui marque encore. Une machine incroyable.
Mais demain, il y aura aussi un choc entre City et Tottenham. Bref, je voulais qu'on parle avec toi de Leicester Chelsea. Score final de partout. Avec un Olivier Giroud pas dans le groupe. Alors oui, les fans de Giroud sont inquiets, depuis plusieurs mois. Mais là, ça devient vraiment.
Pas compréhensible.
C'est quasiment terminé, là. C'est...
Franchement, moi.
Je sais pas, alors.
Explique-nous, parce que moi, je comprends.
Il est pas dans le groupe.
C'est tartu, cette histoire.
Deux partout, score final, doublé de Rudiger. Hier, Lampard, en conf, tient des propos élogieux, à l'égard d'Olivier Giroud, en disant c'est un homme et un professionnel absolument incroyable. Et aujourd'hui, paf, pas dans le groupe.
Ouais, pas dans le groupe, mais juste avant de te laisser commencer. Et en plus, il fait même pas rentrer son remplaçant.
Tout à fait. Michy Batshuayi, lui aussi, qui est donc le numéro 2 dans la hiérarchie, on va dire, des avant-centres derrière Tammy Abraham, qui lui est pourtant sorti en cours de match, j'allais dire, à la 83e minute. Donc c'était assez tard dans la rencontre quand même. Lui qui était incertain, ça veut dire même quand Abraham est incertain, Lampard le fait quand même jouer titulaire pendant 83 minutes. Batshuayi reste sur le banc et Giroud à la maison. Le gros souci, c'est que le club avait promis entre guillemets à Giroud qu'il le laisserait partir puisqu'il n'avait pas assez de temps de jeu et que pour aller à l'Euro il lui faut plus de temps de jeu, sinon Didier Deschamps risque de le laisser à la maison. Le club avait semblé en tout cas comprendre ça et pourtant à quelques jours de la fin du marché des transferts de janvier, ils lui ont expliqué que finalement, comme ils n'avaient pas recruté un autre attaquant, un Dries Mertens par exemple, un Edinson Cavani, les deux joueurs principaux qu'ils ont ciblés pendant ce mois de janvier, et ben comme ils avaient échoué dans leur quête de recruter un autre attaquant, ils étaient obligés de le garder.
Mais ils s'en servent pas. Pourquoi le garder, troisième paire de pompes que tu mets jamais, tu vois, il y a un truc comme ça, quoi.
On va être très clair. Est-ce qu'il va jouer?
Je vois pas personnellement. J'aimerais beaucoup qu'il joue, hein, sincèrement. Et je pense qu'il le mérite en plus parce que, comme l'a dit Lampard, il a été très professionnel du début à la fin. Pas simplement dans l'ère Lampard, mais depuis son arrivée au club en janvier 2018, depuis Arsenal, il a toujours fait preuve d'un professionnalisme parfait. Il a toujours été un bon coéquipier, même quand il a été laissé à la maison, même quand il était sur le banc sans entrer en jeu. Il s'est jamais plaint. Il a jamais pété un câble. Il s'est jamais ouvert de ça dans les jours. journaux ou quoi que ce soit, il aurait pu rendre la vie du club beaucoup plus nuisible que ce qu'il a fait, et à aucun moment il l'a fait, et pourtant je vois pas ce qui pourrait changer maintenant par rapport à la première partie de saison, ouais, qui ferait qu'il jouerait plus. Bah, c'est ça donc, qui me dérange, ouais, le plus.
Ouais, donc il va pas aller à l'Euro, les gars, on est d'accord.
Surtout, enfin, blessure, quoi.
Surtout qu'il n'y a pas l'Europa League cette année.
Ah, effectivement, il y a la Ligue des Champions, mais alors la Ligue des Champions, encore une fois, hein, il a très peu joué dans la phase de poule, donc je vois pas pourquoi il la jouerait maintenant, oui, en phase élimination directe. Et il reste peut-être la Coupe d'Angleterre, et encore, ouais, mais il n'a pas joué non plus cette saison.
C'est
et puis
très,
voilà,
c'est compliqué, c'est...
Et le pire, sincèrement, que Lampard apprécie son profil ou pas son profil, voilà, chacun ses goûts. Simplement, sincèrement, et en étant vraiment objectif, il a un profil qui aurait pu aider énormément Chelsea dans cette saison pour l'instant, cette première partie de saison. Tous les matchs où ils ont perdu à domicile, Southampton, West Ham, Bournemouth, où ils se sont heurtés à des blocs très bas, où il y avait peu d'espace, ouais, où il y avait beaucoup de centres, mais personne pour reprendre le ballon de la tête, il aurait été parfait dans ce genre de scénario-là. Et même là, même dans ces conditions de jeu-là, il ne l'a jamais utilisé.
De toute façon, on en reparlera, Julien, mais les choix de Frank Lampard, il commence entre le gardien, entre Giroud, entre le fait qu'ils mettent Willian en pointe alors qu'il a Batshuayi sur le banc.
Pedro aujourd'hui.
Ouais, franchement.
Et Pedro aujourd'hui titulaire aussi, c'est très bizarre.
Moi, j'aime beaucoup l'entraîneur, mais là, en ce moment, ses choix, ils sont difficilement compréhensibles.
Voilà. Merci, Julien.
Ciao, Julien.
Merci, Julien.
Merci, les gars.
Excellente soirée à toi. Merci, Jonathan. Merci, Kevin. Très bonne soirée en votre compagnie, évidemment. Demain, le retour de Gilbert Bribois à l'after. Et Bordeaux-Marseille, 21h.
Ouais,
bien sûr.
La fin de la malédiction.
Tremble, Bordeaux-Marseille. Au revoir.
RMC. L'after foot.
At the Bank of Santander, they've created Stan, a smart bot that can predict the future of remortgage.
All right, Stan, will my mortgage rate go up?
1955 was the last time Newcastle won the cup.
No, and try not to mumble.
Playing, let's get ready to rumble.
Oh. Meanwhile, at Santander, they can't predict your future, but they'll help secure it with great mortgage rates fixed for up to 10 years. See what's possible at Santander.
Early repayment charges apply. Lending subject to status and criteria. Your home may be repossessed if you do not keep up repayments on your mortgage.